Bonjour à chacun. Alors ce matin, notre programme d'enseignement va désormais ouvrir le livre des psaumes. Alors il y a quelques chapitres devant nous, on ne va pas tous les faire, on vous rassure. Mais on va en faire quelques-uns quand même les dimanches et les jeudis jusqu'à l'été. Alors je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire psaume. Mais en hébreu, en fait, on n'appelait pas ça les psaumes, on appelait ça les livres de louanges. Et psaume est un mot grec qui vient d'un verbe signifiant, j'entends des réponses, psalmodier, d'un mot grec qui veut dire faire vibrer une corde. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement musical, voilà, ou des cordes vocales, dans les psaumes. Alors, on cherche, les musiciens cherchent un joueur de guitite, voilà, ici représenté, pour la suite des événements. Je plaisante bien sûr, mais pourquoi pas. Et on va voir dans le psaume 8, qu'on va aborder tout à l'heure, que le psaume a été écrit et a été proposé sur le son de la guitite, qui est selon certains un instrument ou bien un type musical. Bref, je continue l'introduction au psaume. En vous disant que vous, quelque chose que vous savez déjà, donc il y a 150 psaumes différents répartis en 5 livres. Il y a plus de 7 rédacteurs qui ont écrit les psaumes sur 900 ans de période. Donc David, 73 sur 150, voilà, un grand fournisseur de psaumes. Il y a également les fils de Corée, Asaph, Moïse, Éman, Éthan. Connaît moins, et puis il y en a qu'on connaît moins encore, puisqu'il y a 50 psaumes anonymes. Voilà, donc on les connaît moins. Donc les psaumes sont des textes poétiques qui décrivent les actes de Dieu dans la création et également dans l'histoire d'Israël. Pourquoi étudier les psaumes? Les psaumes sont précieux car ils nous montrent l'esprit et le contenu d'une adoration adéquate. Et les psaumes abordent des thèmes qui nous concernent tous. Ils parlent de la vie réelle. Par exemple, ils décrivent parfaitement le péché dans la vie des incroyants, mais aussi parfois chez les croyants. Et ils nous parlent aussi de la vie spirituelle. Ils nous parlent, et on l'a chanté, on l'a prié ce matin, de la souveraineté de Dieu. Il nous parle de la souveraineté de Dieu, et on la voit partout, mais jamais au détriment de la responsabilité humaine, et cela nous invite à persévérer avec foi dans ce Dieu souverain. Alors il existe différents types de psaumes, et on aura l'occasion d'en voir différents jusqu'à l'été. Et personnellement, quand je lis les psaumes, cela me rassure de voir que Dieu a été à l'écoute, et qu'il est intervenu dans la vie de personnes qui m'ont précédé, qui avaient parfois les mêmes pensées que moi, les mêmes ressentis, les mêmes ras-le-bol, dans des situations et des luttes bien plus désespérées que les miennes. C'est un peu comme mon livre miroir, et ça m'encourage beaucoup. Voilà, je vais arrêter l'introduction ici et puis je vous propose qu'on puisse prendre le psaume 8 que nous allons lire ensemble. Donc les psaumes, c'est en plein milieu, hein. Et le 8, c'est un petit peu au début du milieu. Voilà. Alors le titre de ce psaume dans ma Bible, c'est « La gloire de Dieu dans la création ». Au chef de cœur, sur la guitite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées. Je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Alors ce psaume est donc un psaume de David qui met en avant la grandeur de Dieu au travers de sa création et au travers de l'homme. Et ce psaume a été écrit selon un plan particulier, voilà, selon un plan chiasmatique, donc en chiasme. C'est-à-dire que nous voyons qu'il y a plusieurs idées, qui font ressortir une idée principale qui se situe en début et en fin de psaume. Donc si on reprend le même verset qui est le verset 2 et le verset 10, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Et quelque part, les autres idées viennent argumenter, viennent dans le sens de cette idée principale. Donc ce plan en chiasme, qui est une figure littéraire utilisée, met l'accent donc au début et à la fin de la gloire de Dieu. Cela fait ressortir l'idée de la grandeur de Dieu, mais aussi sa supériorité sur toute chose, et donc son règne universel sur toute la création et sur toutes les créatures. Terre, il est parlé de la terre, des étoiles, quelque part de l'univers, de l'ennemi, des animaux et des hommes. Je ne sais pas s'il manque des choses, mais là, je crois qu'on a fait le tour. Ce constat de règne sur toute chose nous renvoie que notre Dieu est au-dessus de tout. Mais également qu'il a tout fait à la perfection et qu'il a tout fait magnifiquement bien. Je vous propose que l'on puisse s'arrêter sur quelques aspects du règne de Dieu, sur l'ennemi et les ennemis, sur la création et sur l'homme, et ensuite de regarder ensemble quelques applications concrètes pour nous, petit homme, au milieu de cette immensité. Alors, le premier aspect, et on le voit au verset 3, c'est que Dieu règne sur l'ennemi. Par la bouche, verset 3, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Les simples pour confondre les puissants. On revoit cette idée dans 1 Corinthiens 1, aussi au verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est la marque de fabrique de Dieu, c'est-à-dire qu'il est à l'inverse de là où je l'attends. Pour réduire au silence mes ennemis, personnellement, je ferai un petit peu plus comme Donald Trump ou Kim Jong-un, en menaçant d'utiliser une arme nucléaire. Mais Dieu, lui, utilise la bouche des enfants, des femmes stériles, des bègues, etc., etc. Cela me reprend personnellement sur ma manière de prier. Vous savez, parfois, lorsqu'on prie pour quelqu'un ou une situation, on s'en remet à Dieu, mais on va lui donner des conseils sur ce qu'il devrait faire quand même. Je suis personnellement en train d'apprendre que le premier rôle de la prière n'est pas de mettre Dieu au courant d'une situation qu'il ignorait, ou bien d'obtenir de moi des conseils, mais plutôt de soumettre mon cœur à sa volonté afin de faire confiance à sa toute-puissance qui me dépasse. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voies sont bien au-dessus de vos voies, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, verset 8. Le deuxième aspect, c'est que je trouve que ce passage nous renvoie aussi à l'histoire de Jésus, c'est-à-dire un nourrisson venu au monde pour confondre l'ennemi et fonder la gloire du Dieu, maître de l'univers, par la victoire acquise une fois pour toutes à la croix. Et j'aimerais ce matin d'ailleurs insister sur l'implication de la victoire à la croix pour nous dans nos vies personnelles. Jésus-Christ, Fils de Dieu, né d'une femme, qui a grandi, puis vécu sans péché, et qui est mort à la croix pour vaincre la mort et permettre à tout enfant de Dieu non seulement d'accéder à la vie éternelle, mais aussi de démarrer une vie nouvelle, de sainteté, en étant délivré du péché, de ses mauvaises habitudes, de ses mauvais raisonnements, et de toute influence contraire à Dieu, même de celle du diable. Nous sommes invités, dans la parole, à diverses reprises, à prier pour progresser dans la sainteté, en mettant à la lumière, autrement dit, pour employer des vieux termes, en confessant tel péché, telle situation relationnelle, tel comportement, telle pensée qui ne vient pas de Dieu. Alors cela peut se faire à haute voix, dans l'intimité de notre chambre, ou encore mieux avec un responsable, ou bien un frère ou une sœur de confiance ancrée dans la foi. Cela peut être, lorsque nous sommes mariés, notre époux ou notre épouse, mais aussi les anciens, qui sont là aussi pour ça, les diacres, ou bien un référent spirituel qui saura aussi nous aiguiller et nous soutenir dans cette démarche. Jacques 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. » 1 Jean 1, verset 9. « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Jacques 5, verset 16. « Confessez vos péchés les uns aux autres et vous serez guéris. » La victoire de Jésus-Christ a été acquise une fois pour toutes et est pleinement suffisante pour te transformer de l'intérieur et te délivrer des flèches enflammées de l'ennemi. C'est comme si l'armistice avait été signé, que la guerre était terminée, mais qu'il restait des poches de résistance à éradiquer, et c'est un combat et une discipline de tous les jours face au péché et face à l'ennemi. Quel est le rapport entre le péché et l'ennemi? Je pense que des fois, on confond un petit peu les deux. Ou on ne sait pas trop qui commence. La racine du mal, c'est le péché. Et le péché est grave. Ne pas confesser un péché, c'est comme si une belle pomme, en apparence, aurait été rongée de l'intérieur. Le péché nous détruit de l'intérieur, car il nous coupe de notre relation avec Dieu, car il est saint et qu'il ne peut pas voir le péché. Et le diable peut utiliser, parfois, cette fragilité spirituelle pour nous éloigner encore plus du Seigneur. C'est vrai qu'on n'en parle pas tous les dimanches. Mais l'ennemi est à l'œuvre et son but est de nous détourner des plans de Dieu pour nous. Nous rappeler le mal que nous avons fait ou la personne que nous étions. Éphésiens 6, verset 11. On commence au verset 10. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ceci est un état de fait. Néanmoins, le diable n'est pas derrière chacune de nos situations. Le diable est une créature limitée, qui a été vaincue à la croix et dont le pouvoir est contrôlé par Dieu lui-même. Hébreux 2, verset 14. « Ainsi, par sa mort, la mort de Jésus, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. » Une pensée de Danny Amo sur ce sujet. Il n'est pas juste de voir le diable nulle part, mais il n'est pas juste non plus de le voir partout. Ainsi, nous ne voulons pas tomber dans la superstition et nous déresponsabiliser par rapport à une situation qui viendrait de notre péché. Mais nous voulons rester lucides face aux situations que nous affrontons, qui peuvent venir de l'ennemi, mais aussi de notre propre chair, de notre orgueil et du péché qui est encore parfois présent en nous et aussi autour de nous. Et nous voulons plutôt mettre en œuvre notre foi et nous soumettre au nom magnifique et victorieux de Jésus, quoi qu'il arrive. Et nous l'avons chanté à diverses reprises ce matin. Et ainsi, et c'est le but de ce psaume, faire avancer toujours plus le règne de Jésus-Christ dans nos vies, premièrement. Faire avancer le règne de Jésus-Christ, premièrement, cela veut dire également, parfois accepter et se soumettre que Dieu, dans sa sagesse infinie, permette qu'une situation difficile perdure. Ce qui a été le cas de l'apôtre Paul, à qui Dieu a laissé son écharde malgré ses prières. Pour résumer, Dieu peut parfois délivrer et parfois utiliser d'autres moyens, comme la persévérance dans l'épreuve. Dieu peut parfois délivrer et parfois utiliser d'autres moyens comme la persévérance dans l'épreuve. Le point sur lequel nous sommes en désaccord avec certains mouvements de prospérité ou de guérison n'est pas sur la puissance de Dieu. Le point de désaccord que nous avons, c'est sur le but final de Dieu. Le but final de Dieu n'est pas notre bien-être sur terre. Le but final de Dieu est notre bien-être éternel. Et lui seul connaît le chemin dont nous avons besoin pour nous amener au bout. Le but final de Dieu n'est pas notre bien-être sur terre, mais notre bien-être éternel. Et lui seul connaît le chemin dont nous avons besoin pour nous amener au bout. Le deuxième aspect qu'on voit dans ce psaume, c'est le règne de Dieu sur la création. Au verset 4, « Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées. » Dieu n'a pas placé la lune au hasard La distance entre le soleil et la terre est 400 fois plus grande que celle entre la lune et la terre. Le diamètre du soleil est 400 fois plus grand que celui de la lune. Puisque ces rapports sont les mêmes, les tailles apparentes depuis la terre, du soleil et de la lune sont les mêmes. Ainsi, la lune peut éclipser le soleil complètement lorsqu'elles sont alignées. Hasard. Je ne sais pas si vous le savez, mais les éclipses de soleil ont permis des découvertes scientifiques, tant au niveau astronomique, par exemple sur la manière dont le soleil était composé, car sans la lune devant le soleil, on ne peut pas étudier tous les rayons qui sont autour du soleil. Il n'y a aucun télescope aujourd'hui qui arrive avec précision à étudier les rayons du soleil sans que la lune passe devant. Mais aussi au niveau animalier, où on a pu observer des animaux qui avaient des comportements en pensant que c'était la nuit, etc., etc. Et ces éclipses solaires nous donnent des indications précises sur la datation de certains événements qui remontent avant notre calendrier. Un autre aspect. Juste pour imaginer un peu, ou pour se rendre compte. Le soleil dégage autant d'énergie que 10 milliards de bombes nucléaires. Grâce à cette puissance dégagée, vu que nous sommes à 150 millions de kilomètres, nous bénéficions d'une température moyenne sur Terre de 15 degrés. Au vu de la machine, je trouve la précision du thermostat incroyable. Un autre aspect. Nous sommes obligés de mesurer les distances dans l'univers en années-lumière. Alors, une année-lumière. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une seconde. En une année. Mais là, la vitesse, c'est 300 000 km par seconde. Et l'année compte 31,5 millions de secondes, soit 9,5 milliards de kilomètres en une année. On n'a rien compris, hein. On est d'accord. Même moi, je le relis, je comprends toujours rien. Et c'est pour ça que j'ai une petite vidéo à vous montrer qui va peut-être nous permettre de réaliser un petit peu plus.
Pour ce voyage, il faut établir quelques hypothèses. Le voyage se fera en voiture, la vitesse constante sera de 130 km/h, pas d'arrêt pour dormir, se restaurer ou même faire le plein, et la voiture ne fait que rouler 24 heures sur 24. Tout d'abord, faisons un petit tour du monde en considérant que nous puissions rouler sur la mer. Ça vous prendrait à peu près 13 jours pleins. Ensuite, direction la Lune, à 370 300 km de la Terre. Il vous faudra un peu moins de 3 mois, 118 jours pour être exact. La planète Mars, lorsqu'elle est au plus près de la Terre, est à 56 millions de kilomètres. Il faudrait 49 ans de conduite pour l'atteindre. Pour aller se réchauffer au Soleil, il vous faudrait 131 années. Et si vous faisiez du 135 km/h tout du long, vous gagnerez 5 années de conduite.
Robert, ça vaudrait peut-être le coup de faire un petit excès de vitesse, non ?
Enfin, pour impressionner Simone, emmenez-la découvrir l'étoile la plus proche de la Terre après le Soleil. Direction Proxima du Centaure. À 130 km/h, il vous faudrait 35 millions d'années. Voilà. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter bon voyage et n'oubliez pas de nous appeler en arrivant.
Simone, téléphone maison.
Dernière image. Allez. si on divise par 1 milliard notre système solaire. Notre système aurait environ la taille d'une ville de 20 km de diamètre. La Terre correspondrait à un raisin et la Lune à un petit pois situé à 38 cm l'un de l'autre. Ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Mais la précision de la distance Terre-Lune-Soleil, la précision de la puissance du Soleil, imaginez 12 milliards de bombes nucléaires et il fait 150 degrés sur Terre. Bref. Imaginez les distances démesurées. Nous renvoie à la grandeur de notre Dieu et au fait que rien n'est laissé au hasard. On découvre ainsi la puissance et la précision avec lesquelles Dieu procède, et c'est le même Dieu qui t'accompagne dans ton quotidien. Dernier aspect du règne. Alors quand on essaie d'imaginer les milliards d'étoiles, les distances vertigineuses et la puissance qui maintient les planètes sur leur orbite avec une précision mathématique, on ne peut que rester sans voix et être confondu, se sentir petit et faire nôtre les paroles de David. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. » Il y a un gouffre, plusieurs même, il y a une fosse abyssale entre la grandeur et la puissance de Dieu, entre la grandeur et la puissance de Dieu et la faiblesse humaine. Au contraire du lion de la fable de Jean de La Fontaine, où le lion laisse en vie le rat qui va lui rendre service par la suite, il n'y a pas de raison logique, même a posteriori, au fait que Dieu aurait un intérêt à prendre soin de nous. Nous qui sommes par nature des créatures rebelles à leur Créateur. Seul son amour désintéressé pour nous, envers et contre toute raison logique, peut le justifier. Seul son amour désintéressé pour chacun d'entre nous peut le justifier. Alors dans le psaume, au verset 6 et au verset 7, on peut lire la grandeur de l'homme. « Tu l'as fait de peu inférieur à l'homme et tu l'as couronné de gloire. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, je crois. Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Verset 7, « Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. » Tu as tout mis sous ses pieds. La grandeur de l'homme vient de ce que Dieu a fait de lui et de ce qu'il lui a confié. Ce texte nous renvoie au texte créationnel en Genèse 1, au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et surtout les reptiles qui rampent sur la terre. C'est assez fou de penser que Dieu nous a fait de peu inférieurs à lui. Bon, j'y réfléchis. Je dirais que sur l'échelle de domination, nous arrivons deuxième. Mais il y a quelques années-lumière de différence quand même. Ce qu'on peut retenir de ce texte de psaume et de Genèse, c'est que nous avons donc une responsabilité confiée par Dieu de prendre soin de la création à notre niveau. Là encore, il me semble que c'est une question d'équilibre. Il n'est pas juste de devenir des extrémistes écologiques, comme certains de nos contemporains qui ont quelque part fait de la nature leur Dieu. Mais il est important de prendre soin de ce que le Seigneur nous a confié, comme nous sommes invités à le faire avec le corps que Dieu nous a confié. Petit exemple familial. les femmes de la maison, elles ne sont pas là en plus, me demandent de les débarrasser des araignées. Je ne sais pas si c'est votre cas, messieurs. Mais j'évite de les écraser depuis que j'ai réalisé qu'elles ont, elles aussi, une utilité voulue par Dieu. Peut-être vous le savez. On estime à peu près, sur un mètre carré de nos prairies, qu'il y a une centaine d'araignées. Elles permettent l'élimination d'une tonne d'insectes par an et par hectare. Sans elles, il faudrait déverser des insecticides chimiques en quantité telle que notre planète serait rapidement intoxiquée et nous avec. Les araignées participent, à leur échelle, au maintien d'un équilibre indispensable entre les espèces en limitant la prolifération de nombreux nuisibles. Et elles sont également source de nourriture pour d'autres animaux. On arrête le reportage animalier là. Et il y a aussi un deuxième sens à ce passage de psaume que l'on découvre dans Hébreux 2, qu'on va prendre et qu'on va lire ensemble. Hébreux 2, au verset 6. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Ça ne vous rappelle pas un texte, ça ? Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Ainsi, celui qui a été abaissé pour un peu de temps, puis couronné de gloire et d'honneur, est Jésus-Christ, que nous retrouvons d'ailleurs dans l'expression « fils de l'homme » qui est utilisée dans le psaume et qui renvoie dans le Nouveau Testament à Jésus-Christ. Ce qui est merveilleux dans ce psaume, c'est qu'on réalise que, on réalise que la gloire de Jésus-Christ à la croix, il la partage avec tous ses frères, c'est-à-dire chacun d'entre nous qui lui faisons confiance pour notre salut. Et ce qu'on réalise dans ce psaume, c'est que la grandeur, la vraie grandeur de l'homme, est celle qui lui a été donnée par Dieu. Premièrement, à la création, et ensuite à la croix, par l'œuvre de Jésus-Christ, et qui lui permet de participer, qui nous permet, qui te permet de participer à la gloire divine. Nous avons été rendus participants de la gloire de Dieu par la volonté et l'action de Dieu seul. Dieu t'associe à sa gloire par pure grâce. Que peut-on conclure du règne de Dieu sur tous les ennemis, sur le diable, sur le péché, sur nos situations, sur la terre, sur les étoiles, sur le soleil, sur l'univers, sur les animaux, sur la nature ? Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Deux courtes et petites applications pour chacun d'entre nous. Comment, moi, faible créature faillible, peux, par mes actions ou pensées, rendre gloire au Dieu éternel, créateur de l'univers ? J'y comprends pas grand-chose. Mais ce que je comprends de ce psaume, c'est que je suis invité à être confiant en Dieu, qui règne sur tout et peut et veut régner aussi magnifiquement dans ma vie. Ce que je comprends de ce psaume aussi, c'est que je suis invité à refléter sa gloire dans ma vie. Premièrement, pour pouvoir avoir un impact lumineux sur celle des autres, pardon, excusez-moi, que quelque part ce psaume me renvoie à son plan pour moi. Et son plan pour moi, je reprends, c'est de refléter sa gloire dans ma vie premièrement, pour pouvoir avoir un impact lumineux sur celle des autres et dans les responsabilités que Dieu me confie. Le premier aspect est donc, comme on l'a rappelé tout à l'heure, de me laisser transformer toujours plus de jour en jour en renonçant à tout ce qui peut lui déplaire, en les déposant au pied de la croix pour que son règne s'établisse toujours plus dans ma vie. Et le deuxième aspect est celui de continuer à progresser dans la manière dont je reflète son nom sur la terre. C'est-à-dire auprès de ma famille, de mes amis, de mes collègues, de ce que Dieu me confie. Et donc, quelque part, d'avoir un témoignage de plus en plus lumineux. J'étais dans le TGV cette semaine, et je préparais le message. Et j'ai pris l'habitude de laisser apparente ma Bible, et cela suscite parfois des questions. Cela était le cas lundi soir, et alors que j'annonçais le message du salut de l'Évangile à une vieille connaissance croisée par hasard sur le quai de la gare, une vieille connaissance qui avait été dégoûtée, enfant, de la Bible et de Dieu, mais qui s'intéressait au fait que je m'y intéressais. Et à ce moment-là, mon voisin, que je ne connaissais pas de travers, s'est immiscé dans la conversation avec des paroles vraies, mais avec un ton accusateur et particulièrement obtus qui a refroidi l'intérêt de ma vieille connaissance. Ce contre-exemple m'interroge si le nom de Dieu n'aurait pas pu mieux briller à cette occasion. Que notre grand Dieu magnifique puisse continuer son œuvre merveilleuse commencée en chacun d'entre nous, afin que les vases d'argile que nous sommes puissent être menés à la perfection en restant persuadés comme Paul, que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Prions. Seigneur éternel, maître de l'univers, tu nous rappelles encore ce matin ta toute-puissance. Tu nous rappelles ta mainmise sur toute chose et en particulier sur ma vie. Seigneur, merci parce que c'est toi qui m'as appelé et c'est toi qui me conduis jour après jour. Merci pour ta patience envers chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous as associés à ta gloire. Tu as associé ton nom au nôtre. Et Seigneur, tu souhaites nous voir progresser. Merci pour les chemins par lesquels nous passons, même si parfois c'est difficile. Et nous te demandons ta grâce. Nous te demandons encore ton secours pour persévérer jusqu'à la fin. En ton nom. Amen.
Merci Jean-Lionel. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Eh bien, il y a au moins une certitude, c'est que Dieu se souvient de nous. C'est quelque chose d'important, je veux dire, on peut avoir quelquefois le sentiment de traverser des déserts, mais Dieu se souvient de nous. Vous avez peut-être déjà entendu cette image d'un homme qui, à la fin de sa vie, rejoint Saint-Pierre, hein, c'est dans l'imagerie populaire, et il a le privilège de pouvoir revoir le fil de sa vie sous la forme d'une marche sur une plage. Et on voit simplement une plage et deux séries de pas qui marchent côte à côte. Et Saint-Pierre lui dit, tu vois, Dieu a toujours été à côté de toi pendant ta marche. Et la personne regarde et dit « Oui, mais il y a un moment, il n'y a plus qu'une trace là. Regarde la deuxième. » Et là, Saint-Pierre lui répond « Oui, mais c'est parce que Dieu te portait sur ses épaules. » Dieu se souvient de nous en toutes circonstances. Bonne semaine à vous.